Bonjour David, bonjour à tous. 17 classes en moins en Deux-Sèvres à la rentrée prochaine et fermeture de 3 écoles. La DAZN des Deux-Sèvres a révélé ces chiffres hier. Il y a 2 mois, ici même, Thierry Brulavoine témoignait des violences sexuelles qu'il avait subies à Nueil-les-Aubiers dans son enfance, dans les années 90. Son appel a été entendu. Dans un an, le château de la Durbelière à Saint-Aubin-de-Bobigny sera le théâtre d'un spectacle son et lumière. Le projet est en cours et des bénévoles sont recherchés. Digué Diawara vient de signer pour 2 saisons à Cholet Basket, dont le podcast réalisé avec nos confrères de Ouest France ce mois-ci est consacré au meneur de jeu de légende de CB Antoine Rigaudeau, issu du centre de formation du club. La 6e édition de la course contre le cancer à Cholet ce dimanche. Plus de 450 personnes se sont déjà inscrites. Quant à la météo, le temps sera véritablement estival cet après-midi. Lors de la 2e rencontre préparatoire de la future carte scolaire hier, face à la baisse démographique, moins 600 élèves selon les prévisions du rectorat, la directrice de l'Académie des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres, la DAZN, a indiqué au syndicat qu'en septembre prochain, il faudra donc compter sur 17 classes en moins, dont les écoles de Sèvrienne et 3 écoles, Saint-Génard, Chez et La Chapelle-Gaudin, devrait fermer à la rentrée 2025-2026. Julie Coupry, co-secrétaire départementale du SNUPP FSU des Deux-Sèvres.
Tout pendant que le ministère continuera à supprimer des postes dans l'éducation nationale, oui, on aura toujours la même danse de suppression massive à la première phase de la carte scolaire, pour faire un peu moins de suppression à la seconde phase, pour arriver à un équilibre qui correspond à ce qui est attendu par le ministère, c'est-à-dire une baisse de 10 postes en ce qui nous concerne cette année pour la rentrée prochaine. Mais ce qu'on sait, nous, c'est qu'à la rentrée prochaine, on aura moins de postes d'enseignants que cette année.
Et à cela s'ajoute la fermeture d'école.
Là, cette année, oui. Alors, on a senti une vraie, on l'avait dit lors de la première phase de carte scolaire, ça se confirme malheureusement pour cette seconde phase, même si madame la directrice académique a essayé de faire un geste en direction des écoles rurales, puisqu'il y a eu quand même quelques ouvertures aussi dans le rural. En contrepartie, on a 2 écoles dans le milieu rural qui ferment. Les classes ne sont pas supprimées, elles sont glissées sur une école à côté qui est dans un même RPI, mais les écoles ferment, c'est-à-dire dans un village. On a 2 villages dans le département où l'école disparaît. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé comme ça. Et il y en a une à la première phase de carte scolaire sur la circonscription de Mel à Saint-Génard. Donc ça fait 3 en tout sur le bilan de la phase scolaire entière.
Julie Coupry, co-secrétaire départementale du syndicat SNUPP. FSU des Deux-Sèvres. Fin avril, nous diffusions ici même le témoignage de Thierry Brulavoine. Ce quinquagénaire rappelait alors les faits dont ont été victimes des enfants au sein du collège Abbé Pierre de Nueil-les-Aubiers dans les années 80 et 90, mais aussi au cœur de l'amicale pongiste et du club informatique où intervenait un homme jugé pour agression sexuelle par le tribunal de Bressuire en janvier 2002. Ce dernier avait alors écopé de 3 ans de prison avec sursis, avec obligation de soins. À l'époque, le président du tribunal l'avait regretté que l'institution scolaire montre, je cite, une très grande capacité à étouffer la situation, ce qui avait rendu prescrite la plainte de Thierry Brulavoine, lequel lançait, dans la lignée de l'affaire Betaram, un appel aux potentielles victimes. Et cet appel a été entendu par quelques-uns, qu'ils soient victimes, psychologues ou encore enseignants. Une première victoire pour celui qui suit avec attention ce qui se passe ces jours-ci du côté du Parlement européen, lequel vote sur le projet de rendre imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs. Il a d'ailleurs écrit au directeur diocésain et à la communauté éducative du collège, et il a reçu une réponse encourageante. Thierry Brulavoine, joint par Fabien Gazo.
Il n'est pas trop tard pour sortir par le haut des défaillances du passé, hein, puisque les gens actuellement en poste, évidemment, ce n'est pas les gens qui étaient là il y a 30 et quelques années. Et je vous livre un scoop. J'ai eu une réponse en personne du directeur du diocèse dimanche matin, me conviant à une rencontre avec la principale du collège et des collaborateurs du directeur diocésain pour imaginer ensemble comment on va faire ensemble de reconnaître les défaillances du passé pour prendre en compte tout ce qui peut se faire actuellement en termes de prévention des violences sexuelles auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes qui sont en charge de l'éducation des enfants. Donc les choses changent et tant mieux. Et je pense qu'on est à un tournant historique termes de prise de conscience et on va espérer en termes de politiques publiques qui vont être mises à l'œuvre pour réduire et engager la décroissance des violences sexuelles commises sur les enfants. Et voilà, c'est une belle perspective, même si ça remet beaucoup d'histoires pas très agréables
à entendre.
Et puis sachez qu'une compagnie théâtrale a sollicité Thierry Bruy-Lavoine pour un projet consacré aux violences intrafamiliales. Je vous laisse l'adresse mail du collectif. collectifespoir79@gmail.com. L'association des maires des Deux-Sèvres prépare son 7e congrès des collectivités des Deux-Sèvres qui aura lieu demain dans le cadre prestigieux du site de l'abbaye de Saint-Mexant-l'École avec sur place un intervenant de marque, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui interviendra autour du thème d'un mandat à l'autre, consolider l'action locale. Et puis dans l'après-midi, ce dernier se rendra à Secondeuni, où il inaugurera aux côtés d'autres élus la maison de santé pluridisciplinaire. La Durbelière va accueillir un spectacle son et lumière en 2026. Un groupe de jeunes particulièrement motivés s'est rapproché de l'association La Durbelière pour proposer d'y présenter ce spectacle. Ce sera dans un peu plus d'un an, en août 2026. Du 17 au 20 précisément, mais on parle là d'un projet d'envergure nécessitant 150 bénévoles, dont une centaine de comédiens. Il faut également réunir un budget autour de 50 000 euros. L'idée a d'abord germé au sein de la fratrie Baird. Les parents et leurs 9 enfants sont tombés sous le charme des lieux au point de s'établir à Saint-Aubin-de-Bobigny. Et dans la famille Baird, sur ce projet, Geneviève, Marie-Louise et Olivier sont à la manœuvre. Ces deux derniers sont aux micro-collines de Fabien Gazot.
C'est un projet imaginé et organisé par des jeunes étudiants et des jeunes professionnels qui viennent d'horizons très divers. Et donc nous avons tous un point commun, c'est que nous sommes tous passionnés de culture, d'histoire, de patrimoine, et en particulier ici, au château de la Durbelière.
On a besoin d'une centaine d'acteurs. Le but, évidemment, c'est de que ce soit les personnes d'ici qui participent à ce projet, parce que c'est leur territoire, c'est leur château. Et donc que ce soit ces personnes-là qui s'investissent dans ce projet, ce serait magnifique.
Alors, question à l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous a charmé dans ce site?
Moi, je trouve que ce château a vraiment une âme, et que je trouve ça magnifique de pouvoir refaire parler l'histoire aujourd'hui et de faire parler ces ruines.
Moi, je trouve que ce château, en fait, c'est une la vie est plus forte que la mort, parce que ce château a été incendié de nombreuses fois, et toujours, en fait, il s'est relevé de ses ruines, et aujourd'hui, bon, il est en ruine, il n'a pas été reconstruit de manière à être habité, mais malgré ça, en fait, il continue à vivre.
Et ce sera sans doute un peu la trame du scénario, finalement.
Hein. Un petit peu, c'est ça, c'est ce beau message de vie, en fait, qui va passer, de vie, d'amour aussi, parce que il y a eu des belles histoires d'amour aussi dans ce château. C'est aussi notre histoire avec ce château, c'est une histoire d'amour.
La famille Baird et leurs amis se sont donc naturellement rapprochés de l'association La Durbelière, qui depuis des années se mobilise pour faire vivre le site, et vous l'imaginez bien, n'a pas hésité une seconde. La municipalité, qui s'est rendue propriétaire des lieux depuis 2023, soutient également cette initiative. Le spectacle Son et Lumière s'appellera L'âme embrasée. Ce sera donc du 17 au 20 août 2026, avec un besoin de bénévoles. Vous pouvez vous faire connaître auprès de l'association qui organise sa fête d'été le 29 juin. On en reparlera très prochainement avec le président Laurent Marolo. Le sport, Cholet Basket tient sa première recrue. L'ailier de grande taille, 2m06, Didier Diawara, rejoint la formation des Mauges pour 2 saisons. Une annonce qui a été effectuée après de très bons derniers matchs avec le club du Portel. Il a réalisé 6 matchs à 14 points ou plus lors des 8 dernières rencontres. Un transfert bouclé depuis un bon moment, comme nous l'a indiqué le président de Cholet Basket, Jérôme Mérignac.
Bien sûr qu'on ne regrette pas notre choix, parce que quand on a joué contre le Portel, il y a quelques semaines, où on avait déjà signé Diguet, il nous a fait un match du tonnerre, et donc ça a été la seule bonne nouvelle de la soirée par rapport à cette défaite qu'on s'est pris contre le Portel, et on s'est dit au moins on s'est pas trompé sur le joueur.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour vous démarquer des autres équipes?
On met en avant que c'est le collectif qui prime, il y a une véritable ambiance, un engouement au sein de Cholet, il y a une vraie philosophie, un vrai plaisir à partager, soit sur le terrain et en dehors. Donc oui, bien sûr, on n'est pas les plus riches, donc il y a un moment, c'est un peu compliqué de se battre par rapport à des clubs qui peuvent mettre un peu plus sur des joueurs. L'avantage qu'on a cette saison, malgré tout, c'est qu'on a la BCL qui est directe au niveau de la compétition européenne, donc c'est une vraie valeur ajoutée, parce que ça permet un petit peu de se montrer.
Sans oublier de mentionner un autre point fort de Cholet Basket, son académie. Un centre de formation qui va bien pour celui qui l'a intégré dès son plus jeune âge, Antoine Rigaudot. Rencontré par Hugo Schwander à la suite de Cholet Basket, le podcast, c'est le dernier de cette saison.
C'est de la formation qui est sur la continuité de toutes ces années de formation justement du club de Cholet Basket. Ça fait partie de l'ADN du club de Cholet Basket, et puis au fil des ans, il y a toujours des joueurs qui sont intéressés pour venir dans ce club de Cholet Basket, parce qu'ils savent qu'il y a une bonne formation, et puis qu'il y a surtout aussi la possibilité pour eux, s'ils le méritent, d'évoluer avec l'équipe professionnelle.
Vous portez un attachement à Cholet, encore une fois, est-ce qu'on pourrait vous revoir au au club?
Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, c'est une réponse un peu bateau que je dis. Mais non, non, il n'y a pas d'envie particulière à intégrer le club ou quoi que ce soit. Je suis une personnalité un peu électron libre. J'ai envie et besoin d'ailleurs pour m'épanouir d'aller un peu partout dans tous les endroits et puis de me ressourcer pas seulement dans le monde du basketball, même je me ressource plutôt en dehors, mais d'aller découvrir aussi et transmettre et partager moi mon expérience au niveau des jeunes de tous les niveaux.
Antoine Rigaudeau, que vous pouvez donc dès à présent écouter sur notre site internet colin-laradio.fr dans le 11e numéro de Cholet Basket, le podcast. Un long entretien en public pour la première fois, mené par Vincent Nori, Philippe Audouin et Julien Hippocrate à l'occasion des 50 ans de CB qui sont d'ailleurs célébrés ce mercredi. On reste à Cholet avec la 6e édition de la course contre le cancer ce dimanche. Un relais de 3 fois 7 km, une marche nordique et une marche solidaire seront au programme de la journée qui commencera dès 9h avec un échauffement. 460 participants au départ, ce qui est déjà un record avant même la fin des inscriptions. Singularité, les coureurs et marcheurs pourront découvrir au fil des kilomètres certaines entreprises, dont la zone industrielle du Cormier. Citons le groupe Jean-Rouy Automobile, Champion, Kélio Baudet ou encore Leroy Merlin. Une opération impulsée par l'association Courir après l'envol, engagée dans contre toutes les formes de cancer. Betty Delecourt, la présidente au micro-colline du Gauche-Wender.
On va faire de passerelle entre la fin des traitements et la reprise d'activité. Et pour cela, on organise plus de 12 activités. Bien-être, l'activité physique adaptée, de la socio-esthétique, diététique, conseil conjugal, art floral. Voilà, et tout ça animé par des professionnels.
Et donc, la course de dimanche, qui se déroule donc une fois par an, c'est le point d'orgue sur toutes les actions de l'association?
C'est tout à fait ça. Ça fait connaître notre association. Ça aide aussi à fédérer. C'est un engagement sociétal fort aussi pour soutenir les malades et leurs proches. Voilà, c'est une course atypique qui traverse les entreprises du Cormier. En fait, on fait un relais par trois comme symbolique pour le soutien aux aidants. On fait la découverte aussi curieuse des entreprises quand on les traverse pour rappeler aussi la reprise d'une activité suite à la maladie. Et puis, ben, on a notre slogan « Tout donner contre le cancer », ça veut tout dire, quoi.
Les fonds récoltés lors de cette journée serviront d'ailleurs à mettre en place les activités énumérées par la présidente de Courir après l'envol. L'association est actuellement dans les derniers préparatifs et installe des points d'eau sur le parcours, puisque, en effet, la chaleur sera au rendez-vous ce dimanche avec 25 degrés à 9h30 au moment du départ de la course 3 fois 7 km qui se déroule dans la zone industrielle du Cormier, donc à Cholet. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à vendredi soir 23h30. Au chapitre des faits divers, un grave accident s'est produit hier matin à hauteur d'Azel brûlé entre Niort et Saint-Mexant. Le conducteur d'un tracteur s'est endormi au volant de son engin agricole et s'est soudainement déporté sur la gauche en pleine ligne droite, percutant de plein fouet une voiture arrivant en face. Si l'agriculteur s'en est sorti indemne, dans la voiture, le conducteur âgé de 24 ans a été très grièvement blessé, nécessitant son transfert par hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Sa passagère de 19 ans, plus légèrement touchée, a été transportée à l'hôpital de Niort. Un Saint-Mexanté de 34 ans a été hospitalisé hier soir après avoir menacé de mettre fin à ses jours en sautant de son appartement situé au 5e et dernier étage d'un immeuble. Les secours ont été appelés à 14h30 et après plusieurs heures de négociations infructueuses, les gendarmes sont entrés dans le logement. Mis en sécurité, l'homme a été hospitalisé d'office en psychiatrie à l'hôpital niortais.